Vous écoutez, on lit pour vous.
Alzheimer et troubles neurocognitifs. S'outiller pour mieux soutenir un proche. Un texte commandité paru le 3 novembre 2024 dans La Presse. Le long parcours des personnes proches aidantes qui prennent soin d'un proche vivant avec un trouble neurocognitif peut entraîner une importante charge mentale. Joanne Dubord, qui a accompagné sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer pendant près d'une décennie, en tire malgré tout de la lumière. Je pense honnêtement que cette expérience a fait de moi une meilleure personne, dit-elle. C'est avec la voix empreinte d'émotion que Joanne Dubord évoque les années entourant le diagnostic de sa mère. Ça a été une période extrêmement douloureuse, avoue celle qui a été témoin des débuts du déclin cognitif de sa mère. Dès l'apparition de la maladie, la Coensvilloise, alors à l'aube de la retraite, a enfilé son chapeau d'aînée de la famille. Au début, dit-elle, ma mère vivait seule en appartement, alors l'inquiétude était constante. C'est arrivé que la lampe d'incendie parte parce qu'une poêle avait brûlé. Son rôle de proche aidante a rapidement fini par prendre beaucoup de son temps. Ma mère souffrait aussi d'une maladie pulmonaire obstructive chronique. Elle avait des médicaments à prendre, alors je devais me rendre chez elle plusieurs fois par jour. Je ne connaissais pas ça, l'Alzheimer. J'avais toujours l'impression de ne pas en faire assez, explique Joanne Dubord. De l'inquiétude à l'isolement. Face à un stress omniprésent, la proche aidante a longtemps eu du mal à jongler entre les besoins de sa mère et son propre équilibre de vie. Certains amis me disaient que j'allais trop souvent la voir. Alors, je me cachais pour ne pas recevoir de critiques. Je me suis mise à refuser beaucoup d'invitations et à souhaiter de ne plus être appelée pour ne pas avoir à dire non, se remémore-t-elle. Les commentaires et le jugement des autres, c'est entre autres ce que j'ai trouvé le plus difficile, se souvient Joanne Dubord. Deuil blanc. À la charge mentale, s'est ajouté l'inévitable deuil blanc que Joanne Dubord et sa famille ont dû entamer. C'est la relation au complet qui change. On a aussi fait le deuil des traditions. Les parties de Noël, tout le monde ensemble, ça ne marchait plus. Dans les dernières années de sa vie, c'était devenu trop anxiogène pour elle, raconte la proche aidante. Accompagner les proches aidants. L'histoire de Joanne Dubord est marquée par deux moments pivots. Un premier, lors de la prise en charge de sa mère par une clinique de cognition, qui a mené à un premier déménagement, et un second, le jour où elle a frappé à la porte de la société Alzheimer de sa région. Ça a été le début de mon rétablissement. J'ai réalisé que je pouvais avoir du soutien. J'ai compris que ni ma vie ni celle de ma mère n'étaient finies, résume-t-elle. Le saviez-vous? Au Québec, il existe 20 sociétés Alzheimer régionales. Chapeautées par la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, ces organismes visent à soutenir et défendre les droits des 170 000 Québécoises et Québécois qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, ainsi que ceux de leurs proches. Selon Sophie Foisy, directrice générale de la société Alzheimer Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska, les proches aidants ont tout à gagner à faire appel à l'une des 20 sociétés Alzheimer. Consultations et suivi personnalisé, café-rencontre, groupe de soutien, ateliers de répit-stimulation, formation professionnelle, une foule de précieux services de proximité y sont proposés. En plus d'offrir une écoute empathique, les consultations individuelles ou en famille aident à mieux comprendre les troubles neurocognitifs. Elles servent, entre autres, à guider les proches aidants dans leur accompagnement et à leur suggérer des démarches appropriées. On a aussi les groupes de soutien qui peuvent être très bénéfiques, autant pour les personnes qui vivent avec la maladie que pour l'entourage. Les gens peuvent y tisser des liens forts en faisant part aux autres de leur histoire, souligne la directrice générale de l'organisme. Ce qui aide le plus, c'est d'échanger des émotions et de pleurer ensemble sans jugement. On réalise que le malheur peut cohabiter avec des moments de bonheur. Les troubles cognitifs en hausse. En raison du vieillissement de la population québécoise, de plus en plus de gens sont appelés à accompagner un proche atteint d'un trouble neurocognitif. On estime que 360 000 Québécoises et Québécois vivront avec un trouble neurocognitif d'ici 2050. Si les tendances actuelles se maintiennent, le nombre d'heures fournies par les personnes proches aidantes pourrait atteindre 266 millions d'heures par an d'ici 2050, affirme Sophie Foisy. L'appui pour les proches aidants. Partout au Québec, l'appui pour les proches aidants offre un service d'écoute, d'information et de référence confidentielle et gratuit. Info aidant, accessible tous les jours de 8h à 20h, par téléphone au 1-855-852-7784 et par courriel à info-aidant@lappui.org. C'était Alzheimer et troubles neurocognitifs, s'outiller pour mieux soutenir un proche. Un texte commandité paru le 3 novembre 2024 dans La Presse.
Les Québécoises, un texte de Maxime Penneau-Jobin paru le 7 mars 2024 dans La Presse. Les Québécoises se définissent d'abord comme des femmes, ensuite comme des mères et finalement comme des conjointes. Au Canada anglais, l'ordre s'inverse. Les Canadiennes se considèrent d'abord comme des mères, puis des conjointes et finalement des femmes. La firme Léger a découvert cette différence en réalisant une vaste étude pan-canadienne pour une marque de produits pour bébés auprès des nouvelles mères. Cette particularité des Québécoises est fondamentale. Gardez-la en tête quand vous lirez les données qui suivent. Le modèle de société que les Québécoises ont puissamment contribué à construire est un phénomène assez unique en Amérique du Nord. Travailler, c'est gagner en autonomie, en liberté, en capacité de s'épanouir comme on l'entend. De tous les pays du monde, seules les Suédoises ont un taux d'emploi 83,7%, légèrement supérieur à celui des Québécoises, 83,4%. On pourrait même affirmer que dans le domaine de l'accès au travail, les Québécoises font mieux que les Suédoises, et donc mieux que toute la planète, car chez nous, l'écart entre la participation des hommes et celle des femmes au marché du travail est considérablement moindre qu'en Suède, 3,4%, contre 5,2%. Notons que le Canada n'est même pas dans la course avec un écart deux fois supérieur à celui du Québec, 7,9%. En matière de revenus, les Québécoises sont aussi dans le peloton de tête. Elles ont rejoint les Ontariennes et leur revenu moyen dépasse maintenant de 1% celui des Albertaines et de 6% celui des Britanno-Colombiennes. L'écart, cette fois, entre le revenu des hommes et celui des femmes, continue de rétrécir et, là aussi, les Québécoises, 83% du revenu des hommes, sont largement en avance sur les Ontariennes, 75%, et les Albertaines, 67%. les femmes immigrantes du Québec se distinguent, elles aussi, avec éclat. En 2021, au Québec, elles avaient un taux d'emploi supérieur à celui des travailleuses nées ici, avec un ratio de 102 % contre 91 % pour les femmes immigrantes en Ontario. Chez nous, les conseils d'administration des entreprises sont beaucoup plus paritaires que dans le reste du Canada et il y a plus de femmes à la direction générale et à la tête des conseils d'administration. Au Québec, seulement 2 % des entreprises ne comptent aucune femme au sein de leur conseil, alors que ce pourcentage atteint 18 % au Canada. Il faut dire que dans ce domaine, même si le Québec se débrouille mieux, il reste un affamé qui se compare à un crève-la-faim. Il y a du travail à faire, un travail qui sera payant. Les entreprises plus paritaires ont un meilleur rendement. Le mouvement féministe québécois est, toute proportion gardée, probablement le plus puissant en Amérique du Nord. Il est certainement celui qui a eu le plus de succès pour influencer les politiques publiques et lutter contre les inégalités. Centre de la petite enfance, régime d'assurance parentale, équité salariale, perception obligatoire des pensions alimentaires, maintien du nom après le mariage, accès à l'avortement. Le Québec représente à peine plus de 20 % de la population canadienne, mais 50 % des points d'accès à l'avortement de tout le pays s'y trouvent. Ce sont toutes des mesures qui font du Québec un des États au monde où les inégalités hommes-femmes et les inégalités sociales sont les moins grandes. L'avenir est prometteur car ces avancées ont été obtenues à un moment où la présence des femmes à l'Assemblée nationale n'était pas celle d'aujourd'hui. Par exemple, en 1997, au moment de l'adoption de la loi sur l'équité salariale, en grande partie responsable du rattrapage réalisé par les Québécoises, il y avait 23 femmes sur 125 élues à l'Assemblée nationale, 18,4%. Depuis, elles ont plus que doublé leur présence, passant à 58 sur 125, 46,4%, ce qui fait de l'Assemblée nationale du Québec un des parlements les plus paritaires au monde. En fait, si le Québec était un pays, il serait 10e au monde pour la participation des femmes et le Canada 64e. Mais il reste de nombreuses batailles à terminer, sinon à lancer. L'égalité complète est loin d'être atteinte. La violence fait encore des ravages, la pauvreté a toujours un sexe. Et les reculs sont possibles, notamment sous l'assaut des mouvements religieux et de certains masculinistes toxiques qui ciblent les jeunes. Une des plus puissantes motivations en matière d'action politique est de savoir que les victoires, même les plus improbables, sont possibles. En tant que femme, mère ou conjointe, les Québécoises ont fait des gains immenses, des gains enviés un peu partout sur la planète. Ces gains doivent nous servir d'inspiration pour progresser encore vers une société toujours plus juste. C'était « Les Québécoises », un texte de Maxime Pedneau-Jobin, paru le 7 mars 2024 dans la presse.
Maxime Pedneau-Jobin sera à la tête du Musée national de l'histoire du Québec. Un texte de Roxane Léouzon et Jean-François Nadeau, paru le 30 octobre 2024 dans Le Devoir. L'ancien maire de Gatineau, Maxime Pedneau-Jobin, prendra les rênes du futur Musée national de l'histoire du Québec. Des experts en histoire et en muséologie sont partagés par cette nomination annoncée mercredi 30 octobre 2024, citant notamment l'absence de formation et d'expérience du nouveau directeur général. M. Pedneau-Jobin a été maire de la plus grande ville de l'Outaouais de 2013 à 2021. Le politicien, chroniqueur à la presse et commentateur à Radio-Canada, a une formation universitaire en sciences politiques et en développement régional. Jonathan Livernois, professeur à l'Université Laval et spécialiste de l'histoire littéraire et intellectuelle du Québec, avait témoigné à la commission parlementaire vouée à la création de ce musée. Il affirme n'avoir rien contre l'ancien maire de Gatineau, mais que sa prise de position en faveur du récit national dans la presse n'a rien pour le réconforter. En mai 2024, M. Penneau-Jobin avait publié dans ce quotidien une chronique défendant le même point de vue que celui du premier ministre François Legault, soit que ce nouveau musée devait raconter une histoire collective instillant la fierté des Québécois. La CAQ nomme des personnalités politiques à des postes stratégiques qui requièrent des qualités particulières, en muséologie par exemple, a indiqué M. Livernois. Selon le professeur, cette nomination rappelle celle de Marie Grégoire à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Bref, le gouvernement ne semble guère vouloir sortir d'un ronron nationaliste qui ne devrait pourtant pas permettre de faire l'économie d'une démarche muséologique sérieuse, indépendante du politique. Camille Robert, chargée de cours et doctorante en histoire à l'UQAM, s'est dite surprise qu'on ait confié ce mandat à une personne qui n'a pas de compétences muséologiques ou historiques. Cette dernière avait rédigé ce printemps une lettre ouverte signé par 36 professionnels de ce milieu, énonçant des craintes que ce musée instrumentalise l'histoire à des fins politiques. Peut-être aurait-il été plus sage de désigner une personne en mesure de rallier les différents points de vue autour de la création de ce musée-là, a-t-elle commenté. Le muséologue Philippe Dubé, professeur à l'Université Laval, a rappelé que M. Penneau-Jobin et le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, tous deux originaires de la région de Gatineau, se connaissent bien. Il s'agit là, bien entendu, d'une nomination politique, ce qui n'enlève rien, évidemment, aux qualités de l'homme, mais teinte quelque peu cette annonce, a-t-il écrit dans un courriel au Devoir. Un grand nationaliste. En mêlée de presse, le ministre Lacombe a qualifié le nouveau directeur général de « grand nationaliste ». Il a précisé avoir sélectionné personnellement M. Penneau-Jobin sans passe par un appel de candidature. Le Conseil des ministres a ensuite confirmé la nomination mercredi. Questionné sur son lien de proximité avec l'ancien maire de Gatineau, M. Lacombe a refusé de le qualifier d'ami. J'ai effectivement eu à travailler avec lui, donc je peux témoigner de sa capacité à créer des liens avec les communautés, à créer des consensus, de sa capacité à avoir une vision aussi, a-t-il déclaré. Il a aussi fait l'éloge de sa capacité de bâtir des ponts avec les peuples autochtones. Ce sera d'abord et avant tout l'histoire de la nation québécoise, mais on ne peut pas faire l'économie des liens qu'on a avec les Premières Nations et les Inuits, a-t-il précisé. Quant à son manque d'expérience, le ministre a souligné que le directeur général ne serait pas responsable de concevoir les expositions. Il aura toute une équipe autour de lui, a-t-il ajouté. Par ailleurs, M. Penneau-Jobin aura un salaire habituel pour un emploi de cette classe-là, a dit M. Lacombe. Selon les barèmes en vigueur pour des fonctions similaires auprès de l'État québécois, le salaire annuel de M. Penneau-Jobin devrait se situer à hauteur de 225 000 $. Le député du Parti québécois, Pascal Bérubé, s'est réjoui de la nouvelle, citant l'engagement de M. Penneau-Jobin envers la cause indépendantiste. La CAQ va puiser dans la compétence des indépendantistes. Ils l'ont fait à la tête du réseau de l'Université du Québec. Ils le font maintenant pour le musée. Selon lui, cet amoureux du Québec est un homme franchement très impressionnant et sympathique. Pas une situation exceptionnelle. Michel Côté, ancien directeur général du Musée de la Civilisation, note pour sa part que plusieurs ex-directeurs de son institution n'avaient pas de formation en muséologie. Roland Harpin, qui l'a dirigé pendant près de 15 ans, était d'abord un haut fonctionnaire. Ce n'est pas simple de trouver des directeurs. C'est une fonction très variée qui a un côté vision, un côté administratif et un côté connaissance, a-t-il estimé en entrevue avec Le Devoir. Selon lui, M. Penneau-Jobin pourra s'appuyer sur un comité scientifique et il aura à travailler avec des gens des milieux économiques, politiques, philanthropiques, scientifiques, culturels et muséals. Yves Bergeron, titulaire de la chaire de recherche de l'UQAM sur la gouvernance des musées et le droit de la culture, croit lui aussi qu'il sera important que le directeur général soit bien entouré. Il dit ne pas comprendre pourquoi certaines personnes déchirent leur chemise pour cette nomination. Pour Martin Paquet, professeur d'histoire à l'Université Laval, l'ancien maire devra faire ses preuves. Maxime Pennoux-Jobin a maintenant un mandat délicat à remplir. Il doit tenir compte des attentes et des inquiétudes du milieu muséal et historien. Il est à souhaiter que sa nomination soit un signe de la volonté gouvernementale de mettre à distance l'influence politique et d'éviter les possibles ingérences, a-t-il indiqué. L'ouverture du nouveau musée, dont la création a été annoncée en avril 2024, est prévu au printemps 2026. Il doit être construit dans le pavillon Camille Roy du séminaire de Québec et remplace en quelque sorte ce qui devait être le quartier général des espaces bleus, un projet de réseau muséal abandonné officiellement en mars 2024. C'était Maxime Pennoux-Jobin sera à la tête du Musée national de l'histoire du Québec, un texte de Roxane Léouzon et Jean-François Nadeau, paru le 30 octobre 2024 dans Le Devoir.
Des célébrations de mort réinventées, un texte de Samuel Larochelle, paru le 24 octobre 2024 dans La Presse. Après quelques années à imaginer des moments de bonheur personnalisés avec son entreprise Département des moments, l'animateur Jean-Pierre Gravel a une nouvelle mission, donner un nouveau visage aux célébrations de fin de vie et aux funérailles. Sandra de Montigny, la femme atteinte d'Alzheimer précoce qui s'est battue pour la légalisation des demandes anticipées d'aide médicale à mourir, a été célébrée par sa famille d'une manière toute particulière. Au programme, visite au camp de vacances de sa jeunesse, vidéo de Marina Orsini qu'il avait consultée pour jouer son personnage dans Mémoire vive, bouteille à la mer dans laquelle se trouvait le message d'une amie, arrêt dans une chapelle où amis et enfants présentaient des textes et des chansons. Jean-Pierre Gravel nous a présenté sa machine à créer des souvenirs, et j'ai versé mes premières larmes de la journée, raconte Madame de Montigny. Il y en a eu plusieurs autres ensuite, toutes des larmes de joie, de gratitude et d'amour. Depuis 2023, Jean-Pierre Gravel offre des solutions de rechange au traditionnel passage en salon funéraire, suivi d'une cérémonie religieuse, pour célébrer la vie et la mort. Au Québec, dit-il, au moins 50% des gens ne veulent plus du combo salon-église. Certains ne veulent rien, d'autres préfèrent que mon oncle Roger l'organise. Eh bien, Roger est sans doute bon pour organiser un party, mais une célébration de vie, c'est différent. L'entrepreneur veut permettre aux personnes endeuillées de se libérer du stress, de la planification, afin de se concentrer sur leurs émotions. J'ai entendu trop d'histoires où un proche a tout organisé avant de réaliser que son propre processus de deuil avait été entaché. Différentes options. Le département des moments met en place des célébrations de fin de vie, des funérailles et des initiatives d'après-décès. Chaque fois, l'expérience est personnalisée. Que les gens se fassent dire qu'ils ne pourront pas faire jouer telle chanson ou poser tel geste parce que ce n'est pas dans le protocole est inacceptable à mes yeux, dit Jean-Pierre Gravel. C'est une journée où on devrait obtenir ce dont on a besoin. Il y a déjà tant d'émotions à gérer. On n'a pas l'espace mental pour se battre. Il y a quelques semaines, son entreprise a célébré la vie d'une femme qui n'avait jamais réalisé son rêve d'aller à l'université. On lui a organisé une cérémonie à l'université de Sherbrooke avec un diplôme honoris causa, explique Jean-Pierre Gravel. Là-bas, le rituel n'est pas le lancer du mortier, mais de faire tourner un foulard jaune doré. Alors les enfants et les petits-enfants avaient chacun le leur. Sur les photos, on ne voit que des sourires. Dans le cas de Sandra de Montigny, il a créé une série de moments précieux pour célébrer sa vie. Quand on comprend que la vie va se terminer plus tôt, on en profite et on savoure, dit-elle. Avec la journée organisée par Jean-Pierre, on a condensé toute la profondeur et l'importance de mes relations dans un événement. Les rassemblements imaginés n'effacent pas la mort, mais insufflent un peu d'humanité dans le cœur de ceux qui restent. C'est le cas des proches d'un jeune homme âgé de 16 ans qui a péri dans un accident de la route. « C'est terrible pour les parents », souffle Jean-Pierre Gravel. Son père ne voulait aucune funéraille, mais sa femme a gagné un chèque cadeau de notre entreprise. Il y a vu un signe de leur gars et ils nous ont demandé d'organiser une célébration. Plus de 200 personnes se sont alors réunies. Parmi les nombreuses idées du département des moments, notons une liste musicale du jeune homme remise à ses amis pour se souvenir de lui quand il s'ennuie, ou la création d'un bouton permettant de faire entendre le rire du défunt. Ces moments remplis d'émotions sont imaginés par une équipe d'une vingtaine de créatrices de moments. Plusieurs d'entre elles ont un bagage de célébrantes, de préposées en soins palliatifs et de tanadoula, accompagnatrice vers la mort. Elles sont établies partout dans la province. Pour l'instant, ces créatrices sont des travailleuses autonomes qui occupent un autre emploi et qui souhaitent se consacrer à temps plein au département des moments. L'entreprise compte plusieurs personnes issues de la diversité afin d'avoir une meilleure compréhension des traditions et des rituels du monde entier. On est en train d'organiser une célébration pour une femme qui a habité longtemps en Afrique et qui adore les musiques et les danses du continent africain, explique Jean-Pierre Gravel. On va donc faire appel à une créatrice de moments capable de trouver la spécialiste en tradition africaine pour bâtir le tout sans s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas. C'était des célébrations de mort réinventées, un texte de Samuel Rochelle, paru le 24 octobre 2024 dans la presse.